Bonjour et bienvenue à tous à ce nouveau numéro de Libre Ensemble. Avant d'aborder ce nouveau sujet, Jacques Nizin à la technique, Pilar Arcas au micro, un petit point sur la laïcité en Belgique et dans le monde. Comment détecter les signes de radicalisation chez les jeunes quand on est parent, enseignant, psychologue ou assistant social ? Dounia Bouzard, docteur en anthropologie du fait religieux, experte en endoctrinement, vient de signer pour le Centre de prévention contre les dérives sectaires liées à l'islam un rapport relatif à la métamorphose opérée chez le jeune par les nouveaux discours terroristes. En Belgique francophone, Rachid Madran insiste sur l'importance des acteurs de terrain dans la prévention des dérives sectaires et souhaite qu'ils puissent être formés à la détection des indices et de désociabilisation. L'Indonésie est le plus grand pays musulman du monde qui pratique en grande partie un islam modéré. Mais Amnesty International attire notre attention sur la montée de l'intolérance religieuse et pointe certains groupes minoritaires qui sont particulièrement visés par les lois sur le blasphème. Plusieurs incarcérations ont été constatées, comme celle de Tajul Muluk, directeur d'école qui croupit en prison après avoir été condamné à une peine de 4 ans pour blasphème. Une chose n'ayant rien à voir avec l'autre, le thème de l'émission d'aujourd'hui est la longue marche des LGBT. François Massoufoulien, vous êtes le porte-parole de la Rainbow House Brussels. Émilie Vandenbroek, vous êtes collaboratrice au Centre interfédéral pour l'égalité des chances. Merci à tous les deux d'être parmi nous.
Bonjour. Merci à vous.
Merci.
Les avancées législatives sur la reconnaissance des couples de même sexe dans plusieurs pays attestent d'une décriminalisation croissante de l'homosexualité. Mais la situation reste très difficile dans le monde pour des millions de lesbiennes, gays, bi et transsexuels, ce qu'on appelle les LGBT. L'homophobie et la transphobie vont à l'encontre des valeurs laïques fondamentales que sont notamment l'égalité, la non-discrimination liées à l'orientation sexuelle et la liberté de choix. François Massoufoulien, la coupole Rainbow House Brussels couvre tout le réseau LGBT, mais quelles compétences sont couvertes exactement par cette coupole ?
D'abord, est-ce que je peux revenir sur une petite correction ?
Oui, avec plaisir.
Donc on ne dit pas personne transsexuelle, mais personne trans, pour être sûr, parce que le terme transsexuel, c'est un terme psychiatrisant qui est refusé par une très grande partie des personnes trans. Et donc peut-être alors on peut utiliser les bons termes pour parler du bon sujet.
Absolument. Donc on va dire trans désormais pour transsexuel, transgenre.
C'est personne trans.
Personne trans, voilà. Parfait.
Toujours.
Ok, entendu. Et donc pour revenir aux compétences qui sont couvertes par la coupole Rainbow House Brussels.
Donc en fait on est une plateforme représentative, ça veut dire qu'il y a toute une série d'organisations, associations, de groupes qui sont membres chez nous et qui représentent en eux-mêmes la diversité ou une grande partie de la diversité de la communauté LGBT. Donc on a des associations pour femmes, on a des associations qui sont plus activistes, des associations aussi de loisirs, sportives. On a des associations qui travaillent sur la question trans, justement, ou toute une série d'autres thématiques. Et donc, notre rôle, c'est de rassembler aussi ces organisations, de les représenter quand on a l'occasion de le faire, ou en tout cas, de rediriger vers elles quand il y a des questions qui les touchent ou des demandes qui les concernent.
D'accord. Donc, vous êtes aussi une plateforme où les gens viennent questionner, demander, informer et vous redistribuer éventuellement l'information.
Oui, tout à fait. Ça fait partie de notre travail. Donc, on a beaucoup de demandes qui viennent de la part de journalistes, mais aussi d'autres partenaires, des étudiants et aussi des personnes qui sont issues de la communauté et qui veulent pouvoir trouver ce qu'ils cherchent par rapport à des questions précises ou des questions plus générales. Et donc notre rôle, c'est aussi de rediriger ces personnes vers les bonnes associations ou les bonnes personnes.
Émilie Vandenbroek, d'après l'Atlas mondial des sexualités, un collégien américain entend en moyenne 26 insultes homophobes chaque jour. La plupart des homosexuels sont-ils encore contraints aujourd'hui de rester invisibles dans l'espace public ?
Les lois en Belgique permettent aux gens d'être visibles. Donc il y a une série de lois qui ont effectivement permis des avancées pour les personnes LGBTI. Malgré tout, c'est vrai qu'il y a encore énormément d'insultes et que le fait pour de nombreux LGBTI de ne pas oser se montrer parce qu'ils ont peur d'être insultés, qu'ils ont peur d'être discriminés ou harcelés, a un impact direct sur leur bien-être. Ça a été montré par une étude de l'université de Gand de 2006. Et c'est aussi quelque chose qui est remarqué dans les différents pays. Et donc la possibilité pour quelqu'un d'être visible lorsqu'il est lesbienne, gay, bi ou trans est extrêmement important. En 2010, le centre avait fait un rapport annuel qui portait spécifiquement sur la question de l'orientation sexuelle. Pour les gens intéressés, ça se trouve sur Internet, sur le site Internet du centre, www.diversité.be, sans accent.
Donc c'est bien le centre interfédéral pour l'égalité des chances,
qui est un service public indépendant. Et donc dans ce rapport, il y a toute la question de l'homonégativité qui est abordée, qui est une sorte, ce n'est plus vraiment de l'homophobie, donc ce sont des gens qui se déclarent ouverts, qui en principe n'ont rien contre les personnes homosexuelles, mais qui dans les faits vont avoir des difficultés à voir des personnes homosexuelles se donner la main, s'embrasser en rue, ou simplement se déclarer homosexuel sur le lieu de travail.
Oui, donc vous pointer la problématique d'être homosexuel ou de montrer que l'on est, enfin homosexuel ou LGBTI.
Voilà, de montrer que l'on est LGBTI et de le déclarer aux personnes proches. Or, c'est quelque chose qui est important pour le bien-être en général des personnes.
Oui, c'est vrai que dans la presse généraliste, on parle beaucoup de cette invisibilité des lesbiennes. Est-ce que cette invisibilité ou cette volonté d'être invisible touche particulièrement les femmes ?
C'est vrai que les groupes de femmes, et ça c'est de manière assez générale, pas seulement pour la communauté des femmes lesbiennes et bisexuelles et trans, c'est une communauté qui reste dans certains secteurs et de façon générale aussi plus invisible que d'autres. C'est tellement vrai que d'ailleurs le plan d'action interfédéral, lorsqu'il a rassemblé les acteurs autour de la table pour pouvoir, donc je parle du plan d'action interfédéral de lutte contre les violences homophobes, lesbophobes et transphobes, lorsqu'il a réuni les acteurs, il n'y avait quasiment pas, pour ne pas dire pas du tout, de groupe de femmes qui étaient autour de la table. Et ça montre aussi que cette marginalisation, il faut pouvoir absolument la remettre en question et travailler pour offrir plus de visibilité à ces groupes, parce que il y a toute une série de thématiques qui sont spécifiques à ces femmes, et puis il y a une lutte aussi qui est commune avec certains groupes féministes, donc il y a des possibilités aussi de les mettre en avant.
C'est vrai que le gouvernement fédéral et les entités fédérées ont présenté en 2013 le plan d'action dont vous parlez, qui est un plan d'action commun afin de prévenir et de mieux lutter contre les violences envers les personnes LGBTI. Mais qu'est-ce qu'il en est réellement de ce plan ? Est-ce qu'il est réellement appliqué ?
Avant de l'appliquer, il faudrait savoir s'il existe toujours. Bon, pour l'instant, il n'existe plus.
Oui, il est en suspens.
Il est arrivé à échéance. Donc ce plan, il a effectivement le mérite d'exister. Il a pu mettre à table pas mal d'acteurs de terrain et aussi les responsables politiques sur les matières d'égalité des chances et de lutte contre les violences. Mais ce qu'il a fait jusqu'à présent, c'est simplement réunir des priorités, réunir toute une série de listes d'actions, et il s'avère être pour le moment tout à fait utopiste. Donc c'est un plan d'un an avec plus d'une centaine d'actions. Ce n'est pas du tout réalisable, et il faut qu'il puisse être reconduit. Mais de quelle manière ? Bon, ça c'est l'évaluation du plan devrait arriver bientôt. On va voir, on va attendre cette évaluation avant de commenter. Mais dans tous les cas, il faut pouvoir commencer à prioriser ce plan et à rassembler davantage d'acteurs et de forces vives qui existent déjà. C'est-à-dire que ce qui est dommage avec ce plan, c'est qu'il y a une série de choses qui existent déjà et qu'il faudrait peut-être améliorer.
Vous pensez à certains outils qui ont été mis en place et dont on ne se sert pas assez bien ?
Voilà, par exemple, pour reprendre quelque chose qui est un enjeu, je pense qu'il sera un enjeu dans l'avenir et qui devrait d'ailleurs être un enjeu de maintenant, ce sont les EVRAS, donc l'éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle. Ces EVRAS sont obligatoires dans l'enseignement, dans les écoles. La thématique LGBT est également soulevée. Par contre, les référents de ces thématiques pour les écoles, ce sont par exemple des centres PMS, pas des organisations de terrain. On n'a jamais été contacté par ces centres. Donc, qu'est-ce que ça implique ? La réponse est assez claire, ça implique rien du tout. Donc certainement que les écoles qui veulent et qui doivent d'ailleurs aborder la thématique LGBT n'ont pas les bons acteurs ou n'ont pas les acteurs formés pour aborder ces thématiques. Il y a des associations de terrain qui travaillent uniquement, exclusivement dans les écoles. Pourquoi est-ce qu'on ne va pas leur donner plus de moyens ? Pourquoi est-ce que ces associations ne sont pas des référents pour les EVRAS ? Et pourquoi simplement est-ce que les EVRAS font l'objet d'autant de mollesse de la part, on va dire, des politiques ? On a l'impression qu'il y a très peu d'investissement à ce niveau-là.
On va revenir tout à l'heure effectivement sur les possibles formations, les possibles relais et puis effectivement l'importance de cette sensibilisation à l'éducation affective, relationnelle et sexuelle dans l'enseignement. Émilie Vandenbroucke, l'homophobie n'est toujours pas comprise comme une forme de racisme. En Belgique, est-ce que la loi réprime suffisamment les actes qui sont spécifiquement motivés par l'homophobie? J'en profite pour dire que vous étiez hier à l'ouverture du procès de M. Jarfi, décédé en 2012.
Oui, donc la cour d'assises qui juge les auteurs du crime commis à l'égard de Issane Jarfi, tout à fait. En Belgique, la loi protège les citoyens contre tout délit ou crime qui serait perpétré en raison d'une caractéristique protégée. Ça a l'air un peu compliqué comme ça, mais en fait, c'est très simple.
Ah.
Si quelqu'un dans la rue se fait agresser parce que cette personne est là au mauvais endroit, au mauvais moment, c'est la loi pénale qui s'applique, classique. Mais si l'auteur des faits a particulièrement repéré une caractéristique, comme il se dit, ben voilà, cette personne est une personne noire et je n'aime pas les noirs, donc je vais casser du noir, et agresse donc quelqu'un en rue, on va considérer que c'est un crime raciste et ce sera puni plus sévèrement. Pourquoi ? Parce qu'on s'attaque à une caractéristique de la personne, qu'on s'attaque à un groupe complet en réalité.
C'est ce qu'on appelle un facteur aggravant.
Une circonstance aggravante. Donc on parle ici des crimes de haine. C'est une des circonstances aggravantes possibles, il y en a d'autres, mais le fait de commettre un acte parce qu'on pense que la personne, c'est pas forcément parce que la personne est, c'est parce qu'on pense que la personne a cette caractéristique. Autre exemple, une personne, un homme hétérosexuel se balade en rue, mais il se fait que cet homme hétérosexuel est peut-être un peu efféminé. Cet homme hétérosexuel se fait donc agresser en rue en raison du fait qu'il est efféminé, et l'agresseur lui dit « sale tapette, tu vas voir ce qu'il en coûte de se balader comme ça ». Il va être couvert par la loi et le juge va avoir la possibilité de retenir des circonstances aggravantes parce que cet homme hétérosexuel aura été agressé en raison de son orientation sexuelle supposée. Donc la loi ne protège pas les homosexuels ou les personnes d'une autre couleur de peau ou les personnes âgées ou les personnes malades. Elle protège tous les citoyens par rapport au fait qu'on ne peut pas les agresser sur une de leurs caractéristiques.
Oui, ça a l'air tout simple, mais ça a l'air d'être l'évidence, mais c'est vrai que parfois les gens confondent ce qu'on appelle la circonstance aggravante. La Rainbow House Brussels et le centre interfédéral auquel vous collaborez pour l'égalité des chances, donc dispensent tous deux des formations de sensibilisation. Alors, vous ne faites pas la même chose. Est-ce que vous pouvez nous expliquer qui fait quoi? Est-ce qu'on commence par la Rainbow House Brussels ou est-ce qu'on commence par le centre interfédéral?
Toi, toi.
Par rapport au centre interfédéral, on ne traite pas évidemment que les questions de personnes LGB.
Bien sûr.
On s'occupe aussi d'autres critères de discrimination, tels que l'âge, l'état de santé, le handicap, la couleur de peau, l'origine ethnique. Enfin, il y a 19 critères, je ne vais pas tous vous les citer.
Non, mais donc, ici, évidemment, ce qui nous intéresse, c'est les LGBTI.
On a un service de formation qui donne des formations sur l'ensemble des critères, dont aussi sur l'orientation sexuelle.
Émilie Vandenbroucke, qui donne les formations et à qui?
Le service formation du centre donne des formations à différentes personnes qui le demandent et aussi à des partenaires.
Et donc, oui, mais quels sont les corps de métier qui sont...
L'un de ses partenaires, c'est les services de police, donc la police fédérale, avec qui le centre a conclu un accord de collaboration. Mais pas seulement, puisque à côté des policiers qui ont... je pense que c'est au centre le secteur dans lequel on donne le plus de formation, c'est à la police. Il y a aussi les inspecteurs dans l'enseignement. Donc tous les inspecteurs de l'enseignement qui le souhaitent peuvent être formés aux questions de la loi antidiscrimination et de la loi antiracisme, en ce compris les questions LGB. Le centre ne s'occupe pas des questions T et I, qui sont gérés par l'Institut.
D'accord, donc vous parlez des personnes trans et des intersexuées, quand vous dites TI.
Voilà.
C'est ça que vous voulez dire? D'accord. En quoi est-ce que ces inspecteurs peuvent remplir un rôle très important? Parce que ça remonte à loin en ce qui me concerne, mais l'inspecteur, il est très peu présent dans le cadre de l'école, n'est-ce pas? Est-ce que c'est vraiment une personne de référence centrale ?
C'est eux qui ont pour tâche aussi de vérifier que les professeurs font correctement leur travail et qui sont appelés en cas de difficulté avec un professeur ou en cas de plainte contre un professeur. Et donc c'est important qu'ils puissent repérer la discrimination, que ce soit sur base de critères raciaux ou de l'homophobie.
Justement, vous parlez des plaintes. Ce qu'on lit pas mal dans la presse, c'est la problématique des sous-reportages des plaintes. Est-ce que dans les formations que vous dispensez aux policiers, ça intervient tout... En fait, que comprend ces formations ?
En fait, là, vous posez une bonne question. C'est, entre autres, les formations soulignent l'importance de reporter le caractère homophobe d'une plainte. Ce qu'il faut savoir, c'est que ça n'a pas toujours existé. Donc, la circonstance aggravante dont parle Émilie n'existe pas depuis toujours, si mes souvenirs sont bons. C'est, aide-moi, quelle année exactement ?
2007.
Oui, 2007. Avant cela, une plainte ne pouvait pas comporter un caractère homophobe, par exemple. Donc ça veut dire qu'elle n'était pas du tout reportée. Donc ce qui est assez curieux, c'est que subitement, lorsque la circonstance aggravante pour raison d'homophobie a été reconnue, la presse a subitement appelé au phénomène. Regardez, il y a un grand phénomène de discrimination et de violence envers les personnes homosexuelles. Mais en fait, c'est simplement aussi parce qu'on a commencé à les identifier. Et d'où aussi l'importance de la police de pouvoir bien rédiger un PV, un procès verbal, de pouvoir connaître aussi le processus, qu'est-ce qui va advenir de ce PV-là, et aussi de pouvoir accueillir et identifier.
Voilà. Alors ça aussi, ça me paraît important parce qu'on parlait de la formation et d'un processus administratif, mais vous avez parlé aussi de sensibilisation. Alors est-ce qu'il y a aussi un travail de comment on reçoit quelqu'un, comment on lui parle, comment on le réconforte, comment on l'aide et comment on lui montre qu'on est là pour le soutenir et suivre sa problématique, la plainte dont il est l'objet.
Bien sûr, donc c'est très important. La police est une première porte, donc ça veut dire que la police ou en tout cas l'agent qui va recevoir une victime, c'est la personne qui va donner le sentiment à la victime qu'elle a bien fait de venir. Donc il faut pas se cacher non plus. Il y a eu énormément d'agressions aussi commises par des policiers, par la police, et notamment ici, plus particulièrement à Bruxelles. Et donc cette image-là, elle ne joue pas non plus en la faveur de la police, dans le sens où on a encore moins envie d'aller déposer une plainte.
Oui,
il y a aussi la question
aussi...
du coming out. Oui. Donc il faut aussi pouvoir se rendre devant un parfait inconnu et lui dire « je viens d'être agressé parce que je suis homosexuel, parce que je suis lesbienne ou parce que je suis trans ». C'est aussi une question de il faut pouvoir le faire.
Oui.
Et puis il y a aussi le statut de la victime. C'est toujours aussi un problème d'aller porter plainte quand on est une victime. Donc ça fait déjà pas mal de blocages, pas mal de barrières qu'il faut pouvoir enlever, et ces formations-là permettent aussi aux policiers d'essayer de supprimer ces barrières.
Mmh. Oui, moi, à titre personnel, j'en profite pour dire qu'il y a aussi des policiers qui font un travail remarquable.
Bien sûr, oui, non, c'est pas du tout le but.
Non, je sais.
La police collabore pleinement avec nous, et on a eu une parfaite collaboration avec la police, donc on ne va évidemment pas s'en plaindre.
Émilie Vandenbroek, où voulez-vous ?
Oui, le centre collabore depuis de nombreuses années avec la police fédérale, et il y a une sorte d'accord qui a été fait, qui s'appelle une COL, en 2013. Et la COL est en fait un instrument de communication entre le parquet, la police, le centre, pour pouvoir avoir un meilleur rapportage des chiffres et pour aussi développer une politique commune en matière de comment est-ce qu'on gère les choses quand un délit ou un crime homophobe ou raciste ou autrement discriminatoire est commis. Et c'est quelque chose qui fonctionne bien avec une nouvelle formation qui a été mise sur pied par notre service formation pour former l'ensemble des policiers de référence. Donc les policiers de référence sont des gens qui sont désignés petit à petit dans les différentes zones de police pour s'occuper de tout ce qui est la loi antidiscrimination et avoir un rôle de courroie de transmission vis-à-vis de leurs collègues et vis-à-vis du centre. Et donc c'est des choses qui avancent ces dernières années et qui avancent bien dans un sens vraiment positif.
Parfait. Et COL, c'est l'acronyme de quoi ? Collecte de...
COL, c'est une circulaire, en fait. Et c'est une excellente question de savoir quel acronyme.
Oui, bon, voilà. C'est pas le plus important. Mais je vais continuer avec vous, Émilie. Concernant les possibles discriminations à l'emploi des LGBT, donc on a parlé des formations et des sensibilisations du corps de police. Et le centre interfédéral, est-ce qu'il peut apporter un soutien, un conseil et une protection dans le cadre des possibles discriminations à l'emploi des LGBT ?
Tout à fait. Donc le centre est compétent dans différents domaines, l'emploi, les biens et services, une série de l'enseignement aussi. Et donc quand une personne est discriminée en raison de son orientation sexuelle, cette personne est invitée à s'adresser au centre pour pouvoir expliquer son cas. Et auprès du centre, elle recevra un soutien gratuit avec des informations, une discussion qui sera ouverte avec la personne pour voir ce qu'elle souhaite et comment est-ce qu'elle souhaite disposer d'une aide du centre. Ça permettra, dans le cadre de l'emploi, avec la collaboration avec les syndicats aussi, d'essayer de trouver une solution qui soit la plus efficace possible et qui permette à la personne d'aller vers où elle le souhaite, c'est-à-dire garder son emploi, agir elle-même. Voilà, il y a plein de solutions possibles et on travaille sur mesure dans le cadre des signalements qui sont faits au centre. Peut-être un numéro intéressant à connaître pour les gens, c'est le 0800...
Oui.
Je vais ne pas dire de bêtises.
Répondant que vous le cherchez et que vous essayez de ne pas faire trop de bruit avec les feuilles, j'en profite pour dire qu'il y a quand même quelques entreprises qui sont des entreprises minoritaires, mais qui font un travail remarquable en mettant dans leurs conventions et dans leurs clauses qu'évidemment, toutes les personnes trans sont les bienvenues. Et il y a une espèce de formation aussi du personnel. Il y a une véritable formation du personnel qui est faite. Donc il y a des compagnies, des sociétés qui font un travail remarquable. Je ne vais pas trop citer de noms, mais... Vous avez trouvé le numéro en attendant ?
0800 12 800.
0800 12 800.
C'est le numéro de téléphone qui permet d'accéder à l'Institut pour l'égalité des femmes et des hommes et au Centre interfédéral pour l'égalité des chances et qui permet de prendre contact lorsqu'on est victime de discrimination.
François Massot-Foulien, afin que les mentalités évoluent, on a parlé tout à l'heure de l'Evras. Et donc vous plaignez de ne pas être suffisamment consulté, n'est-ce pas, pour réfléchir à la façon de bien mener ces politiques de sensibilisation dans le cadre de l'enseignement généralisé ?
Mais nous, on ne se plaint pas personnellement, on est une coupole, donc ça veut dire que c'est surtout par rapport à nos organisations membres qui sont compétentes sur pas mal de domaines. Je pense notamment aussi à Genre Pluriel, qui est une association qui travaille sur les thématiques trans, qui sont très souvent déçus aussi de voir comment les choses avancent un peu sans eux. Et donc je trouve que c'est un manque à gagner pour des structures qui existent. Hein. On parlait des Evras, il y en a d'autres, de davantage s'investir avec les associations de terrain qui ont une expertise, qui ont aussi les compétences pour pouvoir aider. On ne demande pas, on n'appelle pas à refaire le monde. Hein. Il y a des choses qui existent et qu'il faut simplement pouvoir améliorer. Mais je pense que si le plan d'action interfédéral est repensé et reconduit, surtout, ce qui serait une priorité, il faut qu'il puisse prioriser, simplifier évidemment ces actions, parce que faire un plan d'action interfédéral avec plus d'une centaine de thématiques sur une période d'un an, ben excusez-nous de le dire, mais c'est un peu de la poudre aux yeux. Donc oui. Il faut pouvoir à un moment commencer à être de plus en plus concret et voir qu'est-ce qui existe, qu'est-ce qu'on peut améliorer, les Evras existent, comment on peut les améliorer, qu'est-ce qui n'existe pas et qu'est-ce qu'on doit prioriser.
Mmh, très bien. La Chambre des représentants a adopté en avril dernier la loi sur la coparentalité. Excusez-moi. Donc ce sont les couples de femmes qui peuvent désormais établir leur filiation à l'égard de leur enfant, de la même manière que les couples hétéros. Est-ce que vous pensez que pour certains, Émilie Vandenbroucke, la loi reste trop limitative ?
Donc la loi, c'est une grande avancée, puisque dès le 1er janvier 2015, effectivement, les femmes vont pouvoir avoir à l'égard de leurs enfants, chacune un lien de filiation. Effectivement, dans le cadre de cette loi, seules les femmes sont visées et pas les hommes. Ça a fait partie des discussions parce qu'au départ, les hommes étaient inclus dans la loi, mais ça posait la question de la personne qui porte l'enfant des hommes. De ce couple d'hommes. Comme c'était une question qui était assez sensible et qui nécessitait des débats complémentaires, le Parlement, la Chambre, le Sénat ont décidé de reporter cette question-là. Et donc de se contenter de régler la situation des couples de femmes qui était assez claire et sur laquelle il y avait un accord, pour reporter les débats sur qu'est-ce qu'on décide dans le cadre de la gestation pour autrui à après les élections, c'est-à-dire à maintenant les trois prochaines années, les trois, quatre prochaines années. Et donc, j'imagine qu'ici, bientôt, c'est une question qui va s'ouvrir au Parlement ou pas. Mais peut-être François a-t-il d'autres informations par rapport à ça.
François Massot-Foulien, voulez-vous vous exprimer là-dessus ?
Je pense que ce n'est pas à l'ordre du jour pour le moment, mais nous, on attend vivement, en tout cas, qu'il y ait débat sur le sujet parce que effectivement il faut pouvoir trouver une solution. La GPA, donc la gestation pour autrui, ça fait intervenir toute une série de questions éthiques à laquelle la Belgique et la plupart des communautés n'ont pas été jusqu'à présent confrontées. Pourtant, il faut quand même rappeler que la GPA existe. Elle est pratiquée régulièrement par des couples homosexuels, mais aussi par des couples hétérosexuels.
Oui, il y a un hôpital à Gand qui en a pratiqué, oui.
Tout à fait. Et donc, je pense qu'il faut aussi protéger ces familles et ne pas se laisser piéger aussi à ce débat éthique et avoir une vraie discussion qui permet de respecter d'une part les mères porteuses, mais aussi de respecter les parents qui vont arriver avec cette pratique, et aussi surtout de respecter les enfants qui sont derrière. Donc je pense que là vraiment il y aura une priorité en tout cas de se pencher sur la question de quelle manière il faudra légiférer et comment ça c'est encore en suspens, mais en tout cas il faut clairement pouvoir avancer là-dessus.
Mmh, absolument. On va bientôt arriver au terme de cette émission. Oui, dites-moi.
Juste revenir en arrière parce que on parle de la GPA. Il y a aussi la question de l'adoption pour les familles homoparentales. Et donc, c'est vrai qu'il y a des avancées avec, par exemple, la reconnaissance des co-mères.
Oui.
On est un peu dans le blocage avec la GPA, mais il y a aussi toute une série de problèmes. Il y a l'adoption de couples de même sexe. Et je parle ici plus précisément des couples d'hommes, puisque l'accès à l'adoption est extrêmement difficile aussi ici en Belgique. D'abord parce qu'il y a très peu d'enfants adoptables ici en Belgique, donc c'est extrêmement difficile d'en avoir. Et puis ensuite, les familles d'origine des enfants ont leur mot à dire, ce qui est logique par rapport à leurs enfants. Et donc, si elles ne veulent pas que ces enfants-là arrivent dans une famille homoparentale, eh bien, c'est un nouveau blocage. Et ensuite, parce que les enfants adoptables à l'extérieur de la Belgique proviennent la plupart du temps de pays qui ne sont pas très friendly, voire même ouvertement homophobes. Donc ça pose un problème. L'accès à la parentalité aujourd'hui pour les personnes LGBT pose quand même encore un réel problème.
Il nous reste 2 minutes. Vous vouliez dire quelque chose, Émilie Van den Broek ?
Mais oui, peut-être pour rejoindre ce que dit François, c'est effectivement des questions qui arrivent au centre régulièrement, les adoptions. Et quand on voit les statistiques du centre, quelque chose d'autre qui apparaît de manière claire dans les statistiques, c'est que près d'un quart des signalements qui sont faits au centre par rapport aux critères orientation sexuelle portent sur la vie en société, c'est-à-dire tout ce qui est conflit de voisinage, injures en rue, mais aussi des questions de parentalité, d'adoption, etc.
D'accord, c'est une précision importante. Il nous reste plus ou moins une minute trente d'émission. Est-ce que, en conclusion, est-ce que vous êtes l'un et l'autre confiants dans le sens d'une meilleure considération des LGBT dans notre société dans un futur relativement proche ?
Les choses avancent petit à petit, plutôt de manière positive. On peut le voir dans le film qui a été fait, le court-métrage Love is Love. On peut voir vraiment que les conditions de vie des personnes homosexuelles, bisexuelles, s'est quand même amélioré ces dernières années. Après, il reste encore beaucoup de travail et je pense que Monsieur Massofoulien pourra en parler mieux que moi, mais par rapport aux personnes trans, par exemple, il y a encore pas mal de choses à améliorer aussi du point de vue légal.
Oui, tout à fait. Donc il y a pas mal de choses. Il y a d'abord, effectivement, les choses avancent, mais ce qu'il faut se dire aussi, c'est que c'est la société et les minorités, les communautés et la société en général qui doit se remettre en question aussi sur ses propres valeurs. On parle beaucoup d'homophobie, mais on parle très peu de sexisme. En général, c'est lié. Donc, la clé de voûte des discriminations...
Nous, on en parle pas mal ici, au Centre d'Action
Laïque. Voilà, ma collègue en a parlé. C'est quelqu'un d'efféminé, c'est quelqu'un qui ne rentre pas dans les normes. Et ce n'est pas le sélectionneur de l'équipe nationale de Belgique qui insulte ouvertement devant des millions de personnes. C'est... ses équipiers de Jeannette ou de Tapette, sans avoir aucune insulte ou sans avoir aucun retour qui va vous dire le contraire. Donc je pense qu'il faut qu'on puisse retravailler aussi nos propres valeurs, nos propres mécanismes. Et à ce moment-là, je pense que les choses peuvent aller mieux.
Très bien, je remercie beaucoup d'avoir pris part à cette émission et j'espère, chers auditeurs, que vous avez été davantage éclairés sur la problématique LGBT. Merci beaucoup de nous avoir suivis et à la semaine prochaine.